Soir Weekend.
Christophe Lamarre.
Bonsoir, bienvenue dans ce 18-19. On va tenter de comprendre le monde et une actualité qui bouge parfois trop vite pour qu'on en saisisse tous les enjeux. Invité d'Europe Soir, l'historien et professeur à la Sorbonne, Pierre Vermeren, Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon ou encore Lille. Les grandes villes, celles que l'on appelle les métropoles, ont-elles encore un avenir? Après la classe ouvrière hier, c'est au tour des classes moyennes d'être chassées par la hausse des prix de l'immobilier. Mais ce n'est pas la seule raison. Dans ce 18-19, les livres de l'été de Nicolas Carreau, un roman que nous avons tous lu et si nous ne l'avons pas lu, on nous l'a au moins parfois compté. L'été, c'est aussi les vacances, celles des Français et celles des présidents de la Ve République. Valéry Giscard d'Estaing les passait dans le Loir-et-Cher. C'est un grand classique du dessert, souvent imité, quelquefois égalé, la mousse au chocolat, mais pas n'importe laquelle. Pierre Herbulot nous livrera les secrets de la mousse au chocolat vegan de la chef Johanna Le Pape. L'entretien de Philippe Legrand, une date, une histoire, celle retenue par l'écrivain Éric Giacometti. Il est question d'un casse qui est entré dans l'histoire. Et puis le journal des Jeux Olympiques à 18h50 avec Simon Rubin. Enfin, nous poursuivrons l'hommage à un ancien de la maison d'Europe 1, vous l'avez entendu à l'instant. Jean-Yves Lafesse nous a quittés, mais ses canulars, eux, sont toujours là. Rendez-vous à 18h55 pour un nouveau piège téléphonique. Installez-vous, c'est parti pour une heure. Il est 18h sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la rédaction. La Marseillaise qui résonne et une première médaille d'or pour la France aux Jeux. L'épéiste Romain Canon, sacré champion olympique cet après-midi. Il rejoint au palmarès de la discipline quelques illustres champions et championne. Laura Flessel sera avec nous pour une réaction en direct. Emmanuel Macron maintient le cap malgré les manifestations hostiles au pass sanitaire. Le président en déplacement en Polynésie appelle à l'unité et demande aux Français de se faire vacciner. Le Sénat dit oui au pass sanitaire mais en réduit la portée et les contraintes. Il faut maintenant que les députés et sénateurs s'entendent sur le texte définitif en commission mixte paritaire. Situation toujours sous surveillance dans l'Aude. Plus de 800 pompiers tentent toujours de venir à bout de l'incendie qui a parcouru plus de 800 hectares de végétation. Enfin, nous prendrons la route de la Bretagne. La destination séduit de plus en plus les touristes. Près de 10% des Français y passeront leurs vacances cet été. Et pas seulement au bord de la mer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voilà, on se disait bien qu'on finirait par l'entendre, mais elle nous est parvenue de Tokyo plus vite qu'on ne l'espérait. La Marseillaise a donc retenti aux Jeux et c'est l'escrime qui apporte la première médaille d'or à la France. Romain Canon est sacré champion olympique à l'épée. On ne va pas parler de revanche, Simon Rubin, mais on peut dire qu'il revient de loin.
Oui, et même il vient de loin, tout court, puisqu'à la base, Romain Canon ne devait être que remplaçant sur ces Jeux Olympiques. Son meilleur résultat individuel, c'était jusqu'alors une 7e place lors de la Coupe du Monde de Vancouver en 2019. Lui, le 47e mondial, qui a réalisé incontestablement le plus beau tournoi de sa vie, en éliminant tour à tour les numéros 3, numéro 2 et numéro 1 mondiaux. À aucun moment durant ce tournoi à l'épée, on a eu peur pour le Français qui a maîtrisé, survolé la compétition, intouchable. Romain Canon, c'est un sportif des chemins de traverse hein, qui a fait ses débuts loin de la France, qu'on n'attendait pas. Lui qui a grandi entre la France, le Brésil et les États-Unis. C'est à New York, à l'âge de 12 ans, qu'il débute l'escrime. C'est presque tard d'ailleurs hein, pour un champion de cette trempe. À 13 ans, il fait la rencontre d'un premier entraîneur, un mentor, l'Ukrainien Mokretsov, médaillé d'argent aux Jeux. C'est lui qui lui conseillera d'ailleurs de passer à l'épée. Avec cette médaille d'or, eh bien c'est le début d'une petite notoriété pour Romain Canon. Depuis sa finale, il a désormais sa fiche Wikipédia qui n'existait pas ce matin encore. Ben oui, c'est aussi ça, l'aventure olympique.
Et voilà, merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Tiens, puisqu'on parle d'exploits français du jour, sachez que l'équipe de France de basket vient de battre pour la deuxième fois Team USA 83-76. C'est plutôt bien parti pour les Bleus. On va tout de suite joindre au téléphone une épéiste qui a porté haut les couleurs de l'escrime française, ancienne championne olympique, 6 fois championne du monde, excusez du peu, mais aussi ancienne ministre des Sports. Bonsoir Laura Flessel.
Bonsoir à tous. Alors, juste une chose, petite rectification, Romain Canon était titulaire de l'équipe de France et Ronan Gustan, qui est le remplaçant, qui est arrivé à la dernière minute. Et pas Romain Canon, lui, il a gagné sa place.
Bon, eh ben écoutez, la correction est
importante.
La correction, c'est très important, vous venez d'apporter la correction. Ce titre de Romain Canon, j'imagine que ça doit vous faire particulièrement plaisir.
À plus d'un titre. Pourquoi ? Parce qu'en 84, on a eu le titre individuel de Philippe Boisse. En 92, Éric Chécry. Par la suite, il n'y a eu que des titres par équipe en or. Et aujourd'hui, 2021, on a Romain Cannon. Donc du coup, effectivement, on parle toujours de l'épée homme est là. Et voilà, je suis fière. Deuxième titre, c'est parce que c'est la jeunesse. C'est aussi une nouvelle génération. Et après Amandine, après Lucas, ben, c'est Romain à l'escrime et on est ravis.
C'est une histoire un peu folle. Hein. Simon Rubin en a parlé à l'instant puisqu'il a été donc appelé, on va dire, à être titulaire véritablement à la dernière minute. Ça situe aussi, au-delà de ça, ça situe quand même son niveau de performance sur ces jeux parce qu'il a battu quand même plusieurs têtes de série. Hein.
Il a été fort. Il a été en fait... Dans l'action. Il n'était pas spectateur de ces matchs, il était décisionnaire. Il a été, en fait, il a joué. Il a joué d'une belle escrime. Il a été dans l'opposition, dans l'action, dans la contre-offensive. Il a tout fait, en bas, en haut. Vraiment, c'était agréable de voir, en fait, cette manière et cette, gérer cette, ce plaisir. Il a vraiment été fier de représenter la France. Mais il s'est fait plaisir et il le dit. Et ça, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur.
J'imagine en plus que son style vous plaît ou vous parle particulièrement parce que vous, vous étiez réputée pour être très offensive. On ne va pas rappeler votre surnom, la guêpe, hein, évidemment, la touche au pied. Mais lui a expliqué qu'il était, il aimait jouer avec ses adversaires, les piéger. C'est ce que vous avez ressenti sur la piste ?
Oui, il était dans la créativité, il était dans le plaisir et on le sentait et en fait il amenait une certaine sérénité autour de la piste. Donc du coup effectivement c'est toujours plaisant de pouvoir en fait suivre un escrimeur qui amène en fait une certaine folie dans son jeu et l'escrime s'est touché sans se faire toucher et lui toutes les opportunités étaient belles. Donc du coup vraiment chapeau champion.
Merci Laura Flessel, ancienne championne olympique et ex-ministre des Sports. Il est 18h06 sur Europe 1. Il ne cédera pas. Emmanuel Macron assume le choix du pass sanitaire et répond à ses opposants, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qui hésitent ou qui s'inquiètent d'un recul des libertés publiques. Le chef de l'État leur a répondu depuis la Polynésie où il effectue un déplacement de 4 jours.
Moi, mon message est simple à cet égard, se vacciner. Lorsque la science donne des armes, il faut les utiliser. Et donc je veux ici lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner, parce qu'on le voit partout dans les chiffres et sous toutes les latitudes, quand on est vacciné, on est protégé. Aucune liberté n'existe sans devoir. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. C'est une fiction. Les gens se mentent à eux-mêmes. Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme.
Emmanuel Macron, propos recueillis par notre envoyé spécial en Polynésie, Claudia Bertram. Le pass sanitaire qui franchit l'épreuve du Sénat, texte adopté hier soir mais modifié assez largement, le projet de loi est en ce moment en discussion devant la commission mixte paritaire. Le variant Delta pendant ce temps continue de se propager parmi la population, près de 23 000 cas enregistrés hier, c'est 10 000 de plus par rapport à samedi dernier selon Santé publique France. Cela ne se traduit pas pour l'instant par une hausse spectaculaire des admissions dans les hôpitaux. Quant aux services de soins intensifs, ils ont accueilli 69 nouveaux malades. Le nombre total de patients dans ces unités reste inférieur à 900. Cela n'empêche pas les autorités de tirer le signal d'alarme. Il y aura un impact sur les hôpitaux, affirme le directeur de l'Agence régionale de santé Aurélien Rousseau pour l'Île-de-France. Chez nos confrères du JDD, il dit redouter l'arrivée précoce de patients dans les hôpitaux au mois d'août alors que les effectifs sont réduits. Le préfet des Alpes-Maritimes, lui, décide de ne pas attendre. Le port du masque redevient obligatoire en extérieur dans certains secteurs très fréquentés. La consommation d'alcool est interdite sur la voie publique jusqu'au 16 août. Interdiction également de diffuser de la musique en plein air. Dans l'Aude, les pompiers sont parvenus tant bien que mal à contrôler l'incendie qui ravage le département. 850 hectares au moins ont brûlé et le feu n'est toujours pas maîtrisé au CNTA.
Non, plus de 800 pompiers sont toujours sur place dans cette zone du massif de l'Alaric entre Narbonne et Carcassonne. Les flammes ont ravagé près de 850 hectares de pinèdes et de garrigues. L'incendie n'a pour l'instant pas fait de victimes, mais quelques 120 personnes de la petite commune de Fontcouverte ont été évacuées par précaution et accueillies dans la salle polyvalente du village. Parmi elles, Alexis, 25 ans, il a à peine eu le temps de jeter quelques affaires dans un sac avant de quitter sa maison en urgence avec son père.
On commençait à avoir des flammes, donc c'est que le feu se rapprochait assez vite. De la maison, on voyait beaucoup, beaucoup de fumée. On a pris les 4 chiens, quelques papiers, des affaires et on a dit on s'en va parce que ça commençait.
La commune voisine de Moux a également été touchée par l'incendie. Une maison a été endommagée. La situation est maîtrisée à cette heure, mais le maire Gérard Pioche n'est pas complètement rassuré.
Il y a toujours des pompiers sur place. Il faut être vigilant parce que tout ça peut repartir n'importe quel instant. Parce qu'il y a la cendre qui couve dessous et ça peut repartir avec le vent et la sécheresse.
C'est d'ailleurs ce vent, cette tramontane qui inquiète les pompiers. 5 jours de surveillance seront nécessaires pour éviter toute reprise du feu, d'après les pompiers de l'Aude.
Océane Théard, en Belgique, les intempéries continuent de provoquer des dégâts. 10 jours après les inondations qui ont fait 36 morts, la pluie est à nouveau tombée en abondance dans le sud du pays, cette fois la région de Namur et la vallée de la Meuse. Aucune victime n'est à déplorer. Ça va mieux sur les routes, trafic fluide, même si vous pouvez rencontrer des difficultés dans le sud-est. La journée est classée orange dans ce secteur. En Bretagne, en revanche, c'est ouvert. Et pourtant, cette destination attire de plus en plus. Près de 10% des Français veulent goûter l'air breton. Pas seulement celui de la mer, mais aussi celui de la campagne. Exemple à Pontivy, reportage Élise Dangean.
Office de tourisme de Pontivy, communauté Julie, bonjour.
C'est un signe qui ne trompe pas. Le téléphone sonne beaucoup et la péniche qui sert d'office du tourisme ne désemplit pas. Mathieu est venu y réserver une activité pour toute la famille. Et il y a de quoi faire. Ici, on trouve par exemple le plus grand lac de Bretagne et deux de ses plus belles forêts.
La nature, l'omniprésence de la nature, ça permet vraiment de bien déconnecter de la région parisienne.
Sébastien aussi a préféré cette année des vacances au vert plutôt qu'à la mer. Et ce sera sportif. 6 jours de vélo avec son fils le long du canal de Nantes à Brest.
C'est un rêve que j'ai depuis longtemps, faire un trip comme ça en vélo. Et on m'a plus conseillé cette partie-là, de Pontivy, enfin Guerre-les-Dents en fait.
Résultat, les réservations explosent dans la région, explique Gwenola de Arrojo, directrice de l'Office du tourisme de Pontivy et propriétaire d'un gîte.
Là aujourd'hui, nous sommes remplis jusqu'à fin septembre, ce qui est assez incohérent par rapport aux autres années, mais je veux dire plutôt bien pour nous. Donc ça prouve bien que les visiteurs recherchent vraiment des destinations à la campagne.
La campagne, mais jamais très loin de la mer. À Pontivy, on est à environ 1 heure de la côte, mais avec des hébergements qui coûte environ 20% moins cher.
Un reportage, Élise Dangean. Est-ce qu'il va faire beau sur la Bretagne comme sur le reste du pays? On voit ça dans un court instant.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Le temps reste instable, hein, Marlène Duret.
Oui, le temps va rester instable avec déjà dès le matin des averses en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, sur une bonne partie de la Normandie et de la Champagne. Et ça déborde même un peu sur la Lorraine. Après, elles vont se décaler vers le quart nord-est en cours de journée en prenant un caractère orageux. L'Ile-de-France sera d'ailleurs englobée dans la zone. Sur le reste de la moitié nord, les averses seront plus rares. Au sud, le temps sera plus calme, tout du moins en plaine, avec parfois de belles éclaircies. Alors le long des frontières de l'Est et sur les Pyrénées, le ciel sera plus chargé en journée avec des averses, parfois des orages, et ce temps débordera sur les plages du Roussillon l'après-midi. La Corse verra aussi apparaître un voile nuageux assez épais. Les températures maximales remonteront un petit peu dans le nord-ouest, ailleurs peu de changements. On attend 21 à 27 degrés sur la moitié nord, ainsi que dans le sud-ouest, et puis entre 27 et 33 dans le sud-est et en Corse.
Merci Marlène.
Europe Soir, Christophe Lamarre.
Bonjour Pierre Vermeeren.
Bonjour Christophe Lamarre.
Historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, vous venez de publier un essai, Impasse de la métropolisation, dans la collection Débat de Gallimard. On se dit que vous feriez sans doute un excellent procureur parce que, à la lecture de ce livre, on a l'impression que le réquisitoire est d'autant plus sévère qu'il est argumenté et que vous vous appuyez sur des faits. On va déjà tenter de comprendre, Pierre Vermeeren, quelle est cette métropolisation dont vous parlez et quelles sont les tendances de fond qu'elle a enclenchées selon vous.
Alors, ne pas confondre d'abord métropolisation et urbanisation. Hein. La France est un pays urbanisé depuis longtemps maintenant, depuis la guerre au moins pratiquement. Et au fond, la métropolisation, c'est un phénomène assez récent de transformation des grandes villes, d'abord de Paris, puis des grandes villes de province depuis une vingtaine d'années, en grands centres tertiaires, avec abandon de la production et donc départ des classes ouvrières qui étaient dans les grandes villes, puisque c'était les grands lieux de production, pas seulement de consommation. Et donc, il s'ensuit une transformation à la fois de l'économie et une transformation du paysage social de la France, dont, à mon avis, le trait le plus saillant, c'est la séparation géographique, physique, hein, entre les classes sociales, les élites vivant essentiellement dans les grandes métropoles, dans les métropoles, aux côtés de populations nomades diverses, touristes, étudiants, immigrés, expatriés, etc. Et le reste de la population française, à peu près la moitié, vit dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la France périphérique, que ce soit d'ailleurs des campagnes ou des villes petites, moyennes ou grandes parfois, hein, qui sont notamment des villes en crise post-industrielle.
Vous rejoignez en cela le constat fait par Christophe Guilluy, qui est géographe, qui a d'ailleurs popularisé le thème de France périphérique. Il y a quoi, Pierre Vermeren, de France, ou ce serait plutôt un 4/4 aujourd'hui, cette France-là ?
Je crois qu'on peut parler d'un 4/4, effectivement, avec des poids sensiblement similaire au niveau démographique, puisque les métropoles, ça n'est jamais qu'un gros quart de la population, mais des poids très divergents au point de vue de la production. Alors les métropoles d'abord, qui produisent presque la moitié de la richesse nationale avec un quart de la population et sur une minuscule partie du territoire. Ensuite, ce que j'appelle pratiquement le peuple des banlieues, hein, en tout cas des zones pavillonnaires qui s'étendent parfois sur des très grandes surfaces autour des métropoles. Alors celles-ci, bien sûr, sont rattachées, ces banlieues pavillonnaires, on peut les trouver partout. On les trouve évidemment autour des villes, qu'elles soient très grandes comme les métropoles, voire moyennes, puisque une grande partie des Français ces 40 dernières années ont déménagé, sont allés s'installer à la périphérie. Le troisième quart, ce sont les villes petites et moyennes, qui souvent, parfois très petites, hein, mais rassemblent quand même un quart de la population. Et puis le petit quart de la population qui vit dans les villages, c'est-à-dire dans les communes de petite taille, de moins de 2000 habitants, mais qui occupent l'essentiel du territoire. Donc tout ça fait un ensemble assez hétérogène et avec un problème manifeste de circulation, puisque entre ces espaces, même si on a toutes les infrastructures nécessaires en France, on circule physiquement et socialement assez peu au fond.
Vous, dans votre livre « Impasse de la métropolisation », on a le sentiment que cette élite traverse la France sans la voir. Elle prend le TGV à Paris, elle va à Lyon, elle prend l'autoroute et il y a ces barrières sur les autoroutes qui sont finalement autant de murs physiques.
Ah oui, c'est vrai. Quand on y pense, si vous voulez, ça n'a pas du tout été fait pour ça, puisque ça a été fait au contraire dans un esprit de vitesse et de rapprochement. Mais en réalité, ces grandes infrastructures construites depuis les années 70, que ce soit les TGV qui sont en voie pleine, hein, c'est-à-dire qu'ils sont coupés par des barrières de leur paysage, enfin de leur entourage, idem pour les autoroutes, ce sont en fait à la fois des infrastructures qui unissent le peuple des métropoles, si on peut dire, mais qui le coupent totalement de l'environnement extérieur. Et donc ça crée, il faut imaginer la France comme une sorte de petit casier isolé par ces grandes infrastructures, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les métropolitains, donc les habitants des très grandes villes, 20 à 30% de la population, vivent entre eux au fond, se rejoignent d'une métropole à l'autre. On le voit très bien dans le phénomène des informations télévisées. Hein. Quand on veut savoir ce qui se passe dans le sud-ouest, on envoie un correspondant à Bordeaux. Quand on veut savoir ce qui se passe sur la Côte d'Azur, on envoie un correspondant à Marseille. Et en dehors de catastrophes climatiques ou autres, il y a une sorte de monde rétréci autour de ces grandes agglomérations et de leur population privilégiée. Privilégiée, ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, ils travaillent beaucoup, ils gagnent beaucoup d'argent, mais du coup, ils n'ont plus besoin tellement du reste du peuple dont les activités de production, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, ont été très fortement réduites.
Et ce que l'on pourrait appeler la sécession des élites, ça fait penser à l'historien américain Christopher Lash, qui l'avait écrit dans les années 70, ça fait penser plus près de nous à Christophe Guilluy, je reviens encore à lui, parce que vous le citez dans votre ouvrage. En fait, ce sont deux mondes qui ne se voient plus et donc qui ne se regardent plus.
Oui, et il faut souligner, si vous voulez, le caractère tout à fait neuf de ce phénomène et ses conséquences. Le caractère tout à fait neuf, c'est que jusqu'aux années 60, 70, les élites françaises, comme partout, elles vivaient au milieu du peuple. Physiquement, elles ne vivaient pas comme le peuple, mais elles vivaient au milieu, à proximité, dans les villages, dans les petites villes, dans l'ensemble du territoire, parce que les usines étaient réparties partout, parce que les terres étaient possédées partout, parce que les fonctionnaires se trouvaient un peu partout. Alors vous me direz, c'est toujours le cas dans le cas des fonctionnaires, mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une école ou une santé à deux vitesses, donc on pourrait en discuter. Et les conséquences de ce phénomène, c'est qu'il y a une coupure finalement qui s'est faite entre des élites que l'on pourrait qualifier de mondialisées, parce qu'elles vivent à la fois entre elles, entre métropoles, entre métropoles européennes aussi, hein, et puis avec des zones touristiques réservées, que ce soit en France ou à l'étranger, voire même hors d'Europe. Et puis un peuple que je ne qualifie pas de peuple français, parce que tout le monde appartient au peuple français, mais en tout cas une partie importante du peuple qui vit dans cette France périphérique et qui est en circuit fermé en quelque sorte. Un livre très intéressant, il y a quelques mois, avait dit le système productif aujourd'hui fait que les élites, pour la première fois, n'ont plus besoin du peuple. Et bien sûr, il y a des conséquences politiques, hein. Pour moi, la crise des Gilets jaunes, qu'on a connue, qu'on a analysée, qu'on a disséquée, c'est vraiment une révélation en quelque sorte, peut-être involontaire, mais en tout cas une révélation de cette grande fracture démocratique et sociale. Une autre, c'est le très faible taux de participation électorale auquel on a assisté lors des derniers scrutins, comme si une très grande partie de la population ne se sentait plus concernée par la vie publique. Et c'est là qu'évidemment, il faut faire quelque chose parce que cette situation n'est pas très saine en réalité.
Pierre Vermeren, justement, et vous l'évoquez hein, dans votre livre, vous l'avez évoqué aussi d'ailleurs dans le précédent, La France qui déclasse, hein, les Gilets jaunes, une jacquerie au XXIe siècle. Cette situation est inédite dans l'histoire, elle peut avoir des répercussions fondamentales.
Ah, en tout cas, d'abord, il faut préciser que, contrairement à ce qu'on dit, si vous voulez, c'est un phénomène propre à la France et aussi aux sociétés anglo-saxonnes, notamment à l'Angleterre et aux États-Unis. On a vu qu'en Angleterre, aux États-Unis, il y a déjà eu des conséquences majeures. Hein, l'élection de Trump ou le Brexit, ce ne sont pas des petits événements. La crise des Gilets jaunes non plus. Donc il y a des pays qui ont mieux réussi à maintenir leur industrie, à maintenir des activités sur l'ensemble du territoire, à créer moins d'inégalités, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Et donc je pense qu'on doit réfléchir dans cette direction pour à la fois désamorcer la crise sociale et les tensions qui sont bien réelles, hein, qui sont profondément incrustées même on peut dire, et aussi désamorcer la crise politique qui s'annonce, parce que au fond toute crise sociale et économique elle finit par avoir des répercussions politiques, et puisque on a analysé un phénomène en cours, on peut essayer au moins d'y remédier. Je crois qu'en France l'État reste très puissant. Il n'est pas le seul acteur, loin s'en faut, mais il a quand même des moyens beaucoup plus importants que les autres pour essayer de rétablir des équilibres qui ont été cassés.
Le message est passé. Merci Pierre Vermeren. Je vous rappelle que vous êtes historien. Merci. Et professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Dans un instant, un conte pour enfants qui continue de rencontrer un très grand succès, les livres de l'été, Nicolas Carreau.
Europe Soir Weekend. Christophe Lamarre.
Et comme chaque week-end, à la même heure, les livres de l'été avec Nicolas Carreau. Nicolas, ce soir, c'est un classique. Hein. C'était d'ailleurs, je crois, le sujet de votre émission La Voix est libre. Cet après-midi à 14h. Et bien sûr, La Comtesse de Ségur.
Les petites filles modèles, Les malheurs de Sophie, Mémoire d'un âne, Les Donigo. La plupart de ces romans sont ancrés dans notre imaginaire. Vous avez un petit sourire, Christophe, qui vous trahit, qui trahit votre enfance.
Ah, je suis démasqué.
Effectivement, ce sont souvent les premiers livres que l'on a lus ou que l'on nous a lus. On connaît bien ces romans, peut-être moins l'auteur, dont la vie pourtant fut hyper romanesque. D'abord, son nom de jeune fille, c'est Sophie Rostopchine. Elle est née en 1799 à Saint-Pétersbourg. Elle est la fille de Fiodor Rostopchine, l'équivalent du premier ministre du tsar de l'époque. Mais pour contrer les troupes napoléoniennes à l'époque, il a mis le feu à Moscou, cet homme-là. Et ça a marché. Et donc, il est devenu à la fois un héros, parce qu'il a sauvé tout le monde, mais il est en même temps entré en disgrâce parce qu'il a mis le feu. Alors il est parti en Allemagne et puis un peu plus tard en France, il a fait venir sa famille et voilà comment Sophie Rostopchine est arrivée chez nous.
Et elle parle français ?
Oui, elle parlait parfaitement le français en arrivant. Elle s'est mariée avec Eugène de Ségur, un français, et elle est devenue la comtesse de Ségur.
Alors, comment commence-t-elle à écrire ?
Alors, elle commence très tard, à 59 ans.
Ah oui, c'est
elle
tard.
Avait déjà quand même publié un recueil de contes et un ouvrage de pédiatrie, figurez-vous, puisqu'elle s'intéressait beaucoup à la science. Mais son premier roman, c'est en 1858, Les malheurs de Sophie, écrit pour cette petite fille. Marie-Joséphine Stritch est professeure de lettres et spécialiste de la comtesse de Ségur.
Elle se met à écrire pour ses petites filles, qui sont modèles bien sûr, mais ses vraies petites filles, Camille et Madeleine de Malaret, qui vont suivre leurs parents à Londres. Leur père est nommé secrétaire à l'ambassade de France à Londres et elles sont désespérées de quitter Paris, la Normandie, car elles n'auront plus les récits de leur grand-mère. Et c'est ainsi que Sophie de Ségur va jeter sur un cahier les récits qu'elle leur faisait jusqu'alors.
Le succès est tout de suite au rendez-vous.
Oui, il arrive le manuscrit chez Louis Hachette, qui vient d'inventer une collection pour les gares à l'époque et qui cartonne, c'est l'ancêtre des relais d'aujourd'hui en fait. Et la comtesse de Ségur fait un tabac jusqu'à aujourd'hui. Hein. On connaît tous les titres et les personnages, les petites filles modèles, donc Sophie, Lan Cadichon, etc. Elle a créé, c'est la marque des classiques, des archétypes.
La comtesse de Ségur, Sophie de Ségur, née Rostopchine, a su créer des types. Et si l'on dit... les petites filles modèles, immédiatement, on a une image en tête. On voit Camille et Madeleine. Un bon petit diable, on imagine aussi la mère MacMiche, etc. Quand on dit le cadichon, on imagine cette âne cette très âne. Intelligent de Normandie. Elle a su créer des types. C'est pour cette raison que tous les titres évoquent quelque chose et parlent immédiatement. Je dirais bien que les romans de la comtesse de Ségur appartiennent au patrimoine culturel de tous les Français.
Et ils appartiennent d'ailleurs tellement au patrimoine culturel de tous les Français qu'ils vivent encore aujourd'hui, ces personnages.
Absolument. Aussi, peut-être pour son côté grand-mère, elle écrit sincèrement et quasi exclusivement pour amuser les enfants. La fin de sa vie a été un peu dure, elle est devenue veuve, ses livres se vendaient moins, mais elle était très entourée et sur sa tombe, à Pluneret, dans le Morbihan, elle a fait inscrire ces mots « Dieu et mes enfants ».
C'est joli et... On peut dire, Nicolas, que les enfants le lui rendent bien,
ça, c'est vrai.
Aujourd'hui encore, en continuant à la lire, la comtesse de Ségur. Merci Nicolas.
Merci Christophe.
Allez, on pose le livre, un peu de musique sur Europe 1. Thérapie, taxi, été 90.
Europe Soir Weekend. Christophe Lamarre.
18h30 sur Europe 1, l'heure du rappel des titres avec vous, Yasmine Akatou.
Et l'exploit des basketteurs français à Tokyo. Les Bleus ont battu d'entrée les grands favoris de la compétition, les Américains. Score final 83 à 76. Et puis première médaille d'or pour la France. L'épéiste Romain Cannon a décroché le Graal en finale de l'épreuve d'escrime. Emmanuel Macron s'est adressé aux antipasses sanitaires. Chacun est libre de s'exprimer. Mais la liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas, a martelé le président. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire a été voté au Sénat cette nuit, une version modifiée par les sénateurs majoritairement de droite. Cette version recadrée du projet de loi est débattue entre sénateurs et députés en commission paritaire mixte. Dans les Alpes-Maritimes, nouveau tour de vis du préfet, il faudra remettre son masque à peu près partout, sauf sur la plage, dans les parcs, jardins et espaces naturels. Et l'incendie à Moux, dans l'Aude, est en partie maîtrisé, mais le vent et la chaleur pourraient de nouveau attiser les flammes. 850 hectares de végétation sont partis en fumée dans la montagne d'Alaric.
Yasmina Katou pour le rappel de titre. On vous retrouve bien sûr, Yasmina, pour le journal de 19h. Merci à vous. Et oui, vous avez reconnu ce petit tapis musical. L'été des présidents sur Europe 1. Valéry Giscard d'Estaing avait choisi, on le sait, un château dans le Loir-et-Cher pour passer ses vacances. Il avait notamment élu domicile au village d'Auton. Mais la carte postale de Charles Guyard nous emmène à quelques kilomètres de là, à Montoire, pour un festival de danse traditionnelle qui a vu passer les plus grands artistes.
Ici, pas de piano à queue, de trompettes en cuivre ou autres violons classiques trop communs. Non, en ces lieux, vous y trouverez une sitar de paille, des clarines du Pérou, un didgeridoo d'Australie ou encore un laoneda de Sardaigne. Plus de 500 instruments laissés par des artistes eux-mêmes de passage au festival de danse traditionnelle du monde entier qui se déroule à Montoire sur le Loir chaque année mi-août depuis près d'un demi-siècle. Au fur et à mesure, les dons sont devenus une vraie collection et donc un authentique musée. Musique en fait unique dans sa conception. Chaque jour, Isabelle Dubois invite les visiteurs à découvrir ces pièces incroyables et parfois même à les essayer eux-mêmes.
La musique traditionnelle, c'est pas forcément une musique virtuose. En fait, tout le monde peut jouer et c'est un petit peu le sens du musée aussi. Ça peut enlever des inhibitions. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, de façon très naturelle, on peut tenir un rythme, on peut être acteur.
Alors on voyage de famille d'instruments en continent. Tous sont d'ailleurs représentés. Et puis, on lève les yeux. De grands bambous sont suspendus à des cordelettes, des fontaines d'eau actives, des percussions. Robert Hébrard, génial luthier plasticien, a condensé ici plusieurs sonorités traditionnelles en une monumentale installation.
Donc lui, il a par exemple créé ce beffroi en klung. Les instruments sont suspendus, mais normalement cet instrument est joué en Indonésie. Voilà. Il y a toute la gamme sur les enclumes. Ensuite, on rentre vers l'Afrique avec ce balafon géant.
Éclairage bleuté avec de discrets spots blancs au plafond, parfaite illusion d'évoluer sous une voûte céleste. Le voyage est sonore, mais aussi visuel. De la musique à la poésie, il n'y a qu'un pas, ou ici moins de 15 km, direction Couture-sur-Loire. 400 habitants aujourd'hui et un immortel né en 1524 au château de la Poissonnière. Pierre de Ronsard a vécu là les 12 premières années de sa vie, dans cette superbe bâtisse dominant une vallée parsemée d'églises romanes. Alors forcément, qui de mieux qu'une Italienne Laura pour servir de guide?
On est de toute façon dans une région dans laquelle la Renaissance a foisonné, donc c'est un bâtiment qui nous parle du début de la Renaissance. Et en plus, c'est très calme.
Une cour privée entourée d'arcades, sans doute les vestiges d'une loggia italienne. Le manoir est muni d'une tourelle ornée de locutions latines et d'armoiries, celle de la famille.
L'entrée au manoir est couronnée par une inscription qui dit « Voluptatis et gratis ». À la volupté ou grâce, il ne faut pas traduire ça avec la signification des mots qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est plutôt voilà, vraiment la joie de vivre, le plaisir de profiter de l'existence. Carpe diem. Et là-haut, sur la lucarne, on a le blason de la famille, trois poissons. C'est des rosses parce qu'on relie le nom. Anciennement, ça s'écrivait rossard. Et les rosses, c'est des petits poissons qui sont dans le Loir.
Voilà, la rose comme le poisson, donc, et la rose aujourd'hui, celle de Pierre de Ronsard, évidemment.
N'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui des roses de l'âme.
Souvenir des années collège et de ces poèmes à apprendre par cœur qui rejaillissent ici dans une ambiance savoureuse. Et puis tiens, puisqu'on a commencé cette balade en musique, filons à 50 km de là, à Possé-sur-Cissé. On change de département, mais pas de région, encore moins de décor. Paysage bucolique, source d'inspiration pour les artistes d'hier et d'aujourd'hui, comme Mick Jagger, devenu un châtelain discret qui d'ordinaire fait ici tous ses anniversaires en feu d'artifice. Alors ouvrez l'œil ou tendez l'oreille ce 26 juillet, sait-on jamais, le chanteur des Rolling Stones doit souffler ses 78 bougies. Dans le centre-val de Loire, Charles Guyard, Europe 1.
Painted Black des Rolling Stones, l'été des présidents et la carte postale à retrouver bien sûr tous les week-ends sur Europe 1. Voilà, c'est l'un des desserts les plus cotés, facile à faire en apparence, mais sa réussite réclame quand même un petit tour de main, la mousse au chocolat. C'est le plat de l'été de Pierre Herbulot et cette mousse au chocolat n'est pas comme les autres puisqu'elle est végane. À la manœuvre, la chef Joanne Le Pape.
Aujourd'hui, on réconcilie les amateurs de gourmandise et les amateurs de légèreté avec Joanna Le Pape qui est à mes côtés. Vous êtes championne du monde des arts sucrés et vous allez surtout nous faire cette mousse au chocolat végane. Par contre, on commence, Johanna, on a tout de près devant nous là.
On a tout devant nous, du coup on va commencer par faire chauffer notre lait végétal. Moi je pars sur un lait d'amande. Donc on va mettre 100 g de lait dans la casserole. On va mettre à chauffer. Pendant qu'il chauffe, on va faire fondre notre chocolat. On a 100 g de chocolat noir au micro-ondes pendant à peu près 1 minute 30, le temps qu'il soit préfondu. Alors ensuite, on va donc verser notre lait d'amande dessus. Et je vais prendre un petit fouet et je vais mélanger pour faire une jolie émulsion. On a quelque chose de très élastique, très brillant. Alors en fait, ce que moi je vais faire là à ce stade, je rajoute un peu de fleur de sel et puis un peu de fève de tonka. La fève de tonka, ça c'est une amande vanillée. Du coup, on va en gratter la quantité qu'on souhaite. Voilà, moi je vais gratter la moitié. Et donc ça, en fait, le mélange, je vais le mettre un peu au froid. Donc comme là, on va aller assez vite, je le mets au congélateur, le temps que le mélange refroidisse bien. Et pendant ce temps-là, moi, je vais monter ma mousse avec aquafaba et sucre.
Alors, on va juste rappeler ce que c'est que l'aquafaba.
En fait, ça va être l'eau de cuisson du pois chiche. Le pois chiche va rejeter, en fait, dans l'eau de cuisson, une certaine protéine qui va permettre, en fait, comme les blancs d'œufs, de foisonner, donc de monter. Et donc, c'est parti, on commence à mélanger. Alors,
on est pas mal là, hein. On voit que c'est bien monté, on dirait vraiment des blancs d'œufs là.
Ouais, exactement, du coup là en fait on peut rajouter le sucre, texture un peu mousse à raser.
Un peu de meringue là.
Voilà, c'est prêt, la meringue est prête. Elle est très jolie, elle est très lisse, elle est brillante. Ouais. En fait, si on le sait pas, on pense pas que...
Ah ouais, c'est du blanc d'œuf là, hein. Ah, j'en suis sûre. Je vous ai vu faire mais je vous crois pas.
C'est ça. Alors du coup, une fois que ma mousse est prête, en fait, je vais pouvoir récupérer la base avec le chocolat. Donc là, maintenant que ma base est froide, eh bien, on peut donc rajouter notre mousse. Et là, en fait, je vais délicatement incorporer cette mousse. On va essayer de bien garder toute l'aération qu'on vient d'avoir et d'obtenir grâce à la coiffaba. On est prêt pour déguster.
Bon, on va s'en occuper tout de suite. Je prends une belle cuillère. Mmh, c'est hyper bon.
Cool.
On a vraiment, moi, le premier truc que j'ai, c'est la fève de tonka qui vient parfumer la mousse, qui lui donne cette petite note un peu caramélisée, anisée, vanillée. Puis c'est hyper léger.
Bah ouais, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un dessert en fait léger.
Merci beaucoup Johanna Le Pape.
Merci à toi d'être venue.
Et voilà Pierre Herbulot, les plats de l'été, la recette bien sûr, comme d'habitude, est à retrouver sur le site d'Europe1.fr, la recette et les photos. Restez avec nous, on va parler du casse du siècle dans un instant, ce sera l'entretien de Philippe Legrand, à tout de suite.
Europe Soir, Christophe Lamarre. Une date, une histoire.
Bonjour Philippe Legrand.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Nous sommes en 1976, la France se tourne vers la Côte d'Azur. Le casse du siècle a eu lieu à Nice au début de la saison estivale. Bonsoir Éric Giacometti.
Bonsoir.
Célèbre auteur de romans policiers, vous êtes le créateur avec Jacques Raven des enquêtes du commissaire Marcas, plus de 3 millions d'exemplaires. Vos lecteurs sont répartis dans 17 pays où vous êtes considéré comme le roi du thriller. Derrière vous, Éric Giacometti, se cache Largo Winch, le héros de la bande dessinée dont vous êtes devenu le scénariste. Vous avez choisi ce soir de revenir sur le 18 juillet 1976. Le casse de Nice vient d'avoir lieu. Albert Spaggiari en est le cerveau. Étonnant personnage qui a inspiré l'acteur Jean-Paul Rouve, il l'incarne au cinéma et s'explique sur Europe 1 au micro de Dominique Souchier.
Spaggiari est sympathique et il a des mauvais côtés. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Il est acteur de sa vie. Et quelquefois je le compare plus à un artiste de cabaret qui a son numéro. Et il fait son numéro. À chaque fois qu'un journaliste vient le voir, il met son numéro. Il met ses postiches, il met ses déguisements. Et vas-y, je fais mon numéro. Il crée sa légende. Spaggiari a une bonne image. Il a réussi à contrôler son image. Alors qu'il y avait des armes, alors que c'était un mec qui fricotait avec l'OAS, il était colonialiste, raciste, réac. Il était mytho aussi, il inventait tout et n'importe quoi. Les flics français n'ont pas cherché plus que ça, parce que non plus, le jeu en valait pas la chandelle.
Éric Giacometti, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce 18 juillet 1976, le casse du siècle, avec un Spaggiari en vedette?
Alors en fait, à l'époque, j'avais 13 ans. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision. Mais sur ces chaînes, on passait d'excellents films. Bref, tout d'un coup, l'actualité devenait un film. Tout d'un coup, vous aviez un malfaiteur qui reprenait tous les codes des films qu'on regardait, que je regardais quand j'étais ado.
Éric Giacometti, il faut remettre évidemment, rappeler le contexte. Il est dans le bureau du juge d'instruction. Mais avant d'être dans le bureau du juge d'instruction, il y a quand même ces 2 mois pour creuser ce tunnel depuis le parking de la place Masséna à Nice et atteindre ce mur blindé là où se trouve la salle des coffres. Il y a toutes ces étapes que l'on va apprendre au fil de l'enquête.
Plus de 2 mois de travaux. Ils sont allés sous terre, dans les égouts. Ils ont creusé. Alors qu'au même moment, vous aviez des flics un peu partout, c'était quand même... on fait pas ça n'importe comment, si vous voulez, il faut quand même s'organiser. Spaggiari, qui était, n'oubliez pas, un photographe, c'était le photographe municipal, Spaggiari. Donc le jour, il était photographe, et puis la nuit, bah, il creusait des tunnels. Et voilà, et ils vont faire leur casse, et ils vont laisser une inscription, sans armes, ni haine, ni violence.
Éric Giacometti, c'est la philosophie, vous le pensez, d'Albert Spaggiari?
Je pense que c'est Rouve l'a très bien dit, c'est un acteur, c'est une mise en scène. Il a besoin, non seulement il récupère, à l'époque c'était 50 millions de francs, maintenant ça devrait faire 30 millions d'euros à peu près. Donc, mais il ne se satisfaisait pas de ça, il voulait aussi la gloire. Et il avait très bien compris qu'il fallait soigner son image. C'est pour ça que c'est aussi fascinant, que Spaggiari a fasciné les journalistes à l'époque. C'est parce que c'était pas le salopard de voyou tel qu'on pouvait avoir l'habitude. C'était pas la bande à Bono, il ne tuait pas des policiers.
On a même dit, Éric Giacometti, allez, un autre clin d'œil à ce monde des romans policiers, on a même dit qu'il était d'une certaine manière la réincarnation ou l'incarnation d'Arsène Lupin.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il l'a cité dans une des interviews. Mais vous savez, il a même dit qu'il s'était inspiré d'un roman policier qui s'appelait « Tout à l'égout », dans lequel il racontait le casse d'une banque en passant par les égouts.
Alors, Albert Spaggiari n'a rien à voir avec Largo Winch, votre héros, vous qui en êtes le scénariste maintenant. Et vous êtes aussi l'un des ambassadeurs de l'exposition qui est à voir à la Cité de l'économie à Paris. Largo Winch, aventurier de l'économie à Citeco. Comment est-ce que vous l'avez conçu, cette exposition?
Juste, quand on parle d'économie, on a l'impression que c'est austère, que c'est compliqué. Là, rien à voir. C'est sexy, c'est fun. Franchement, vous pouvez y aller avec vos enfants, vous allez passer un très bon moment. Bref, Citeco voulait faire une exposition sur l'argot, parce que l'argot, à travers les albums de l'argot, on découvre à chaque fois des pans de l'histoire économique. On apprend des choses sur l'économie. Dans chaque album de l'argot, vous découvrez, vous apprenez des notions d'économie, mais qui passent de façon sympathique, ludique. Et c'est ça qu'ils voulaient capter. Ils voulaient capter cet esprit-là. Alors, ils ont confié ça à Didier Passamoni, qui est un grand expert en bande dessinée et qui a conçu cette exposition, une sorte de parcours initiatique dans l'univers de l'argot.
Éric Giacometti, est-ce que l'Argo Winch, votre personnage, aurait pu rencontrer ou pourrait rencontrer James Bond ?
Alors les deux se suivent hein, d'année en année, mais on voit que les deux héros divergent dans leurs univers. Bond, avec Daniel Craig, devient de plus en plus sombre. Moi, je trouve que dans l'argot, il n'y a quand même pas tout ce côté sombre. L'argot préserve ses valeurs. Vous savez, l'argot, c'est César, c'est Spartacus qui serait devenu César. C'est le rebelle devenu chef d'entreprise. Et à chaque album, on garde de cette flamme, on garde de cet espoir, on garde de cet humanisme. On ne veut pas tomber, avec Philippe Franck, le dessinateur, qui est le gardien du temple, on ne veut pas tomber dans cette espèce de morosité ambiante qui commence à devenir un peu pesant.
Eh bien, on va se quitter et penser aussi à cet univers-là de ces aventuriers avec la chanson pour finir que vous avez choisie, You Only Live Twice, interprétée par Nancy Sinatra. C'est votre choix et c'est la bande originale de James Bond. Merci Éric Giacometti d'être venu sur Europe 1 avec cette date, le 18 juillet 1976, pour revenir sur le casse du siècle. Quelle actualité! Et merci d'avoir évoqué l'Argo Winch, votre personnage. À bientôt.
Merci.
Nancy Sinatra, You Only Live Twice, bande originale bien sûr, certains d'entre vous l'auront déjà reconnu, bande originale du film de James Bond, On ne vit que deux fois, avec un certain Sean Connery, éternel 007 pour les fans de la franchise, sans doute parce qu'il a eu le mérite d'avoir été le premier, parce qu'il était très bon dans ce rôle de James Bond, mais on dit aussi que Daniel Craig n'est pas mal non plus dans le rôle, en tout cas il l'a fait évoluer. Ils ne sont pas au service de Sa Majesté, mais ils se battent pour ramener des médailles au pays, le journal des Jeux, dans un instant, Simon Rubin.
Les Jeux Olympiques de Tokyo. Toutes les émotions du sport sont sur Europe 1.
Et rebonsoir Simon Rubin.
Rebonsoir.
Allez, on commence avec la médaille d'or du jour. Évidemment, en escrime à l'épée, la victoire de Romain Cannon.
Et lui qu'on n'attendait pas à un tel niveau et qui a survolé la compétition aujourd'hui en battant en finale le numéro 1 mondial après avoir sorti le numéro 2 et le numéro 3. Un exploit fêté avec ses camarades de l'équipe de France.
Thank you.
La joie des coéquipiers de Romain Cannon. Romain Cannon, 24 ans, qui n'avait jamais gagné de compétition majeure et qui frappe très fort. Un peu de mal à réaliser d'ailleurs au micro de France Télévisions.
Aucun regret. J'ai kiffé tout le long, j'ai kiffé. Je ne me suis pas posé de questions. On est là pour gagner, c'est ce que je voulais faire et voilà quoi. Je suis très ému. Mes parents, ils sont venus juste pour m'accompagner pendant ce temps-là, pendant ces deux semaines. Et voilà, je suis très heureux.
Romain Cannon qui apporte donc à la France sa première médaille d'or. La France, 7e au tableau des médailles ce soir.
Et puis une journée assez riche pour les Français, pour le tableau des médailles français, puisqu'on a eu une médaille d'argent en judo avec Amandine Buchard.
Elle qui, à la base, combattait dans la catégorie inférieure en moins de 48 kilos. Elle avait beaucoup de mal à assumer les régimes. Et après des mois de doute, de dépression, ça c'était en 2016, elle avait choisi de monter en catégorie. Alors il a fallu du temps, des années pour s'adapter. Et elle était encore très émue d'avoir atteint son but plusieurs heures après le podium. Écoutez son émotion au moment de publier ce message sur les réseaux sociaux.
Je voulais vous remercier du fond du cœur, toutes les personnes qui m'ont soutenue toutes ces années. Aujourd'hui, voilà, je voulais tous vous remercier. Vous m'avez donné énormément de force et je ne pourrais jamais autant vous remercier. Voilà, en tout cas... Je suis contente, ne vous inquiétez pas, je suis contente et je vais la savourer. C'est pas seulement ma médaille, c'est la médaille de toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont aidée à la décrocher. Voilà, une nouvelle fois, merci.
Amandine Buchard, l'argent pour elle et puis rendez-vous pris pour la judokate. Elle l'a annoncé, elle visera l'or à Paris dans 3 ans.
Et autre grand moment aujourd'hui, Simon. Et quel grand moment, la victoire de l'équipe de France de basket contre les États-Unis.
Dans un match parfaitement tenu, maîtrisé, les Bleus qui ont fait la course en tête quasiment tout au long de la rencontre. Un vrai exploit en ouverture du tournoi contre les stars de la NBA. Victoire 83-76, la France est une sacrée équipe, a déclaré Greg Popovich, le mythique entraîneur des États-Unis. C'est évidemment idéal pour le début de la compétition. En sport collectif toujours, les Bleus du foot sauvent leur peau après une victoire 4-3 contre l'Afrique du Sud acquise dans les dernières secondes. Et puis le handball, les filles de l'équipe de France, très attendues, elles visent la finale et elles démarrent bien. 30-29, victoire sur la Hongrie.
Simon, le meilleur est à venir, c'est-à-dire le programme de cette nuit et demain.
Et oui, le Brésil affrontera la France en handball masculin. Les Bleus qui avaient gagné leur premier match contre l'Argentine. Ce sera la suite du judo, grand pourvoyeur de médailles jusqu'à présent. De la natation, on en aura beaucoup. La finale du 100 mètres papillon dames avec Marie Vatel. Charlotte Bonnet sur le 200 mètres nage libre avec les séries. Léon Marchand de retour de 100 mètres papillon. Fantine Le Saffre et Cyrielle Duhamel qui débuteront également avec les séries du 200 mètres 4 nages. Et puis on aura la suite du surf aussi avec de belles chances de médailles, le début du taekwondo et le triathlon masculin avec là encore une chance de médaille et même potentiellement de médaille d'or en la personne de Vincent Luis. Tout ça à suivre dans la nuit, dans la matinée. Et on en reparlera évidemment 13h-14h dans le Club Tokyo dès demain.
Avec vous, Simon Rubin, m'est avis qu'on va vous revoir souvent, peut-être on peut l'espérer pour d'autres médailles, mais surtout des médailles d'or. Simon Rubin, du service des sports d'Europe 1. Et voilà, on ne sait pas s'il va pleuvoir de l'or, mais on va sans doute savoir s'il va pleuvoir tout court, Marlène Duret. J'ai l'impression que le temps va être un peu mitigé cette semaine.
Oui, le temps va rester instable. Dès le matin, d'ailleurs, on prévoit des averses en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, sur une bonne partie de la Normandie et de la Champagne. Ça déborde aussi un peu sur la Lorraine. Et puis, cette zone instable va se décaler ensuite vers les régions du quart nord-est, Île-de-France incluse. Donc, dans l'après-midi, ces averses pourront tourner à l'orage. En tout cas, tous les ingrédients seront là. En fin de journée, ça va se couvrir à nouveau en Bretagne à l'approche d'une nouvelle perturbation. Quant à la moitié sud, eh bien le temps s'annonce plus variable, avec parfois de belles éclaircies. L'après-midi, le ciel sera quand même plus chargé le long des frontières de l'Est et sur les Pyrénées. On attend des averses, parfois des orages. Et ce temps va gagner d'ailleurs les plages du Roussillon. Température maximale prévue 21 degrés au Havre, 22 à Brest, donc ça remonte un petit peu dans le nord-ouest. Nous aurons toujours 23 à Paris, il fera 26 à Strasbourg et Toulouse, 29 à Montélimar et 27 à 33 degrés près de la Grande Bleue.
Merci Marlène.